Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du jeudi 16 juin 2016. Au sommaire ce soir...
À Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko est inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État et placé en détention préventive.
Au Mali, 2 morts dans l'ouest du pays lors d'une attaque de présumés djihadistes.
Arrestation à Mugamba, dans le sud du Burundi, après la fin de l'ultimatum lancé par le gouvernement aux insurgés.
40 ans après le massacre de Soweto, l'Afrique du Sud se souvient.
D'une espèce de printemps africain, bien avant le printemps de l'Afrique du Nord.
Et bien sûr, plein feu sur la France et l'Euro 2016, juste après le journal. La nouvelle vient de tomber au Congo-Brazzaville. Le général Jean-Marie Michel Mokoko est inculpé. Il a été présenté au procureur de la République qui a ouvert une information judiciaire pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Il est en détention préventive à la maison d'arrêt de Brazzaville. On fait le point avec vous, Eric Manirakiza.
Le général Mokoko était placé en garde à vue depuis mardi à la Direction générale de surveillance du territoire, sans aucune notification d'infraction quelconque lui reprocher. Selon la défense jointe par VOA Afrique, il vient d'être inculpé et placé en détention préventive à la maison d'arrêt de Brazzaville. Il était arrivé menotté au parquet de Brazzaville selon plusieurs témoins. Il a démissionné début février de son poste de conseiller du président Sassou Nguesso pour se porter candidat à l'élection présidentielle du 20 mars. Le général est mis en cause dans une vidéo tournée en 2007. Il avait indiqué qu'il s'était fait piéger dans cette affaire de vidéo. À la veille de l'élection, le général avait été entendu plus d'une fois dans cette affaire par la police. Depuis, il vivait en résidence surveillée dans sa maison du centre-ville de Brazzaville.
Au Mali, 2 civils ont été tués dans une attaque hier à Mankena, un hameau non loin de Léré, dans la région de Tombouctou. 2 hommes armés ont ouvert le feu sur les villageois avant de repartir en menaçant de revenir pour finir le travail. Le point avec Cheikh Maga de la radio Issaber à Niafonke, dans l'ouest du Mali.
Le village du nom de Mankena a été attaqué par 2 hommes armés qui étaient arrivés dans le village au moment de la prière du Nafila, qui est des prières communes que font les musulmans lors donc des carrément. L'imam, ayant entendu donc les coups de feu, a décidé de réunir quelques responsables et notables du village auprès de lui pour aller voir le chef du village, demander de leur expliquer ce qui s'était passé. C'est ainsi qu'au cours de leur chemin, ils ont rencontré les 2 hommes armés qui ont tiré sur eux. Malheureusement, le chef de village et un de ses compagnons sont aussitôt tombés. Et il y a eu aussi donc 2 blessés, dont un des enfants d'ailleurs de l'imam. Les 2 blessés sont en ce moment donc en train de suivre des soins au niveau du CESCOM, qui est le centre de santé communautaire de la ville de Léré. Et tout de suite, il y a eu une rencontre entre l'administration et puis les forces de sécurité sur place pour essayer de voir est-ce qu'il y a des mesures à prendre après donc cette situation dramatique qui s'est déroulée hier soir aux environs donc de 21h et dans le village de Mankena, à moins de 10 km de Léréville.
Cheikh Maïga de la radio Issaber à Niafonke, dans l'ouest du Mali.
Au Burundi, l'ultimatum lancé il y a 2 semaines par le président Pierre Nkurunziza a expiré hier. Les jeunes de la commune de Mugamba continuent de fuir vers d'autres localités. Ils redoutent les descentes policières. Pourtant, la police rassure et appelle la population à travailler sereinement. Sur place, notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Selon les témoignages des habitants de la commune de Mugamba, en l'occurrence Ziouya, Kivezi, Nyagasasa et Muramba, les jeunes de ces localités ont fui par peur d'arrestation. Ils craignent des actions musclées, des forces de sécurité et des exécutions, comme ce fut le cas le 11 décembre de l'année dernière, dans les quartiers contestataires de Bujumbura, où plus de 70 personnes avaient été tuées après l'attaque de 2 camps militaires par des hommes armés. Les mêmes témoignages indiquent que même si la situation paraît être calme, la présence de nombreux militaires et policiers n'est pas du tout rassurante. Mais le porte-parole de la police, qui a fait une conférence de presse mercredi à l'expiration de l'ultimatum de 15 jours lancé par le numéro 1 burundais, il tranquillise la population. Pour le porte-parole de la police, ce sont les organisateurs des crimes qui propagent des rumeurs incendiaires, incitant la population à fuir, invoquant l'apocalypse après le délai de grâce de 15 jours. Pierre Mouriquier appelle la population à vaquer tranquillement à ses activités, car seuls les criminels identifiés, les co-auteurs et compagnons complices sont visés par des actions des forces de sécurité. Ces derniers temps, un calme relatif est à signaler dans beaucoup de localités du pays, mais cette région de Mugamba au sud du Burundi est le théâtre quotidien d'affrontements. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le président nigérian Muhammadu Buhari prolonge de quelques jours son séjour à Londres. Il est en Angleterre pour une otite persistante. Buhari rentrera dimanche, assure son vice-président.
Explosion d'un oléoduc dans le sud du Nigeria. Les rebelles des Vengeurs du Delta du Niger affirment avoir attaqué l'installation de la compagnie pétrolière nationale. Mais pour la police, il s'agirait plutôt d'un accident lié à une fuite de carburant.
Retour sur les affrontements à la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Asmara dit avoir tué plus de 200 soldats éthiopiens dans les combats de dimanche. Pas de précision sur les victimes dans ces rangs.
Kenya, un tribunal de Mombasa a donné son accord pour l'examen anal visant à confirmer l'homosexualité d'un homme. Le juge a ainsi rejeté une requête contestant la légalité de cette pratique condamnée par les organisations de défense des homosexuels. L'homosexualité, rappelons-le, hein, Gabi, est illégale au Kenya et peut être punie de 14 années d'emprisonnement, même si des poursuites sont rarement menées.
Attentat suicide du groupe État islamique près de la ville de Sirte, en Libye. 10 combattants des forces soutenant le gouvernement d'Union nationale ont été tués, selon une source hospitalière citée par l'agence France-Presse. Il s'agit du 3e attentat suicide contre les forces du GNA ce jeudi.
Afrique du Sud, c'est aujourd'hui le 40e anniversaire du soulèvement de Soweto. Souvenez-vous, le 16 juin 1976, des milliers d'écoliers et d'étudiants ont envahi les rues du ghetto noir pour protester contre l'introduction d'un enseignement entièrement dispensé en afrikaans, c'est la langue de l'oppresseur blanc. C'était du temps de l'apartheid.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une des deux boîtes noires de l'Airbus d'Égyptair qui s'est abîmée en Méditerranée le 19 mai, celle qui enregistre les conversations des pilotes dans le cockpit, a été récupérée, a annoncé aujourd'hui la commission d'enquête égyptienne. Précision, John Lennon.
Cet enregistreur de voix a été retrouvé à morceaux, mais les enquêteurs disent avoir récupéré la partie qui contient la mémoire de l'appareil. Le délai pour exploiter les boîtes noires dépend avant tout de leur état. L'enregistreur de voix, qui fonctionne comme un magnétophone, contient jusqu'à 2 heures de conversation, mais aussi les bruits d'ambiance dans l'avion. L'autre boîte enregistre des données, relève seconde par seconde tous les paramètres sur une durée de 25 heures de vol. Ces deux boîtes sont conçues pour résister à des chocs extrêmement violents et émettre des signaux à ultrasons toutes les secondes pendant au moins 30 jours. On les appelle boîtes noires, mais en réalité, elles sont oranges. Grâce à elles, près de 90% des accidents aériens peuvent être expliqués et le mystère de l'avion d'Égypte Air reste entier. L'appareil effectuait la liaison Paris-Le Caire lorsqu'il a disparu des radars avec 66 personnes à bord.
Barack Obama et son vice-président Joe Biden sont arrivés à Orlando aujourd'hui pour témoigner leur soutien aux familles des victimes de la tuerie de dimanche dans une boîte de nuit gay. Miley Segal.
Le président américain entend affirmer que le pays est aux côtés de la population d'Orlando et de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre. Monsieur Obama va rencontrer des familles de victimes pour présenter ses condoléances. Il prévoit aussi de s'entretenir avec les équipes d'urgence, médecins, infirmières ou ambulanciers. Le tueur, Omar Mateen, a fait 49 morts et 53 blessés. L'enquête progresse car son ex-épouse, Noor Salman, pourrait avoir été au courant de ses intentions sans en informer les autorités. Le procureur n'a pas voulu donner de précisions sur d'éventuelles poursuites contre elle. Ce massacre a relancé le débat sur la vente d'armes à feu aux États-Unis. Le Parti démocrate a obtenu une petite victoire. Après 14 heures de débat parlementaire, une proposition de loi limitant l'accès aux armes à feu par des suspects de terrorisme sera examinée au Sénat.
Un jeune homme de 22 ans, soupçonné de préparer une action violente contre des Américains et des Russes, a été arrêté dans le sud-ouest de la France, rapporte l'AFP, citant des sources concordantes. Cette arrestation était intervenue dans le cadre d'une enquête ouverte lundi matin par la section antiterroriste du parquet de Paris. Sa garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures. Le jeune prévenu est originaire d'une petite ville du sud de la France, d'où une trentaine de personnes sont parties pour la Syrie.
La campagne pour le référendum sur le maintien de l'Union européenne de la Grande-Bretagne a été suspendue après la nouvelle d'une attaque contre un membre éminent du Parlement, Jo Cox. L'élu de 41 ans de l'opposition travailliste était dans un état critique après avoir été blessé par balle près de Leeds, dans le nord de l'Angleterre. La police a arrêté un homme de 52 ans après l'incident. Le Premier ministre David Cameron a annulé un discours pro-Union européenne prévu à Gibraltar.
Et l'ancien ministre israélien de la Défense, Moshe Yalon, a annoncé aujourd'hui qu'il serait candidat au poste de Premier ministre, défiant ainsi Benjamin Netanyahou. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Et bonsoir Morgane, bonsoir Chérubin. Dans le groupe B ce soir, l'Angleterre a fait un pas sérieux vers la qualification grâce à sa victoire 2-1 à Lens contre le Pays de Galles, comme nous l'explique Bagassi Koura.
Oui, ce fut un derby tendu, Angleterre-Pays de Galles, un match indécis et forcément passionné qui s'est terminé par la victoire tardive des Anglais, 2-1, grâce notamment à Vardy et Sturridge, les deux remplaçants qui permettent pour le coup de doubler les Gallois au classement. Des Gallois qui ont pourtant marqué les premiers en ouvrant le score pour le Pays de Galles. Gareth Bale succède à la légende de l'équipe de France, Zinedine Zidane, dernier joueur à avoir marqué un coup franc direct à l'Angleterre lors d'un Euro. En 2004, avec 4 points, l'Angleterre reprend le contrôle des opérations, tandis que le Pays de Galles, à une unité derrière, reste à la lutte avec la Slovaquie. La Russie ferme la marche avec seulement un point.
Et place ce soir au match du groupe C, Irlandais du Nord et Ukrainiens qui se sont neutralisés en première période, 0-0. Oui mais voilà, c'est l'Irlande du Nord qui mène 1-0 après un but inscrit en seconde période. Le match a été arrêté quelques minutes à cause d'une tempête, des grêlons se sont abattus sur la pelouse. Le match a repris. Le leader du groupe, l'Allemagne, lui affronte à 19h temps universel la Pologne. Une rencontre qui fleurbon la nostalgie des années 70 et 80 lorsque la Pologne tutoyait les grands d'Europe. La Pologne serait-elle de retour au sommet du football européen? C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
Bonsoir. Le match Allemagne-Pologne qui domine la journée dans la poule C ramène des nostalgies aux grandes affiches des années 70-80 lorsque les Polonais jouaient les tireurs des stades aux côtés de équipes comme la Hollande de Johan Cruyff, l'Allemagne de Gerd Müller ou encore la France de Michel Platini. Elle assimilait les affiches, prenait le bonheur, mais ne gagnait pas. Pourtant, personne ne voulait l'attendre. Puis l'histoire s'est accélérée à la fin des années 80. Les priorités ont été ailleurs. Et les dieux des stades, Lato, Dadocha, Kéna et autres bonnettes n'ont pas été remplacés. Le passage à vide est devenu long, trop long. Depuis l'Euro 2012 à domicile, la Pologne réapparaît dans le casting des grandes compétitions. Un leader se distingue dans le groupe, Robert Lewandowski, une machine à marquer des buts que le Bayern ne saurait lâcher. En retrouvant la Mannschaft à Saint-Denis pour la confirmation d'un début de compétition excellent, Lewandowski et les siens ont l'occasion de signer un retour gagnant face à un voisin qui n'a pas cessé de s'alimenter dans le vivier polonais pour construire son palmarès. Un parfum de derby flotte donc dans l'air à Paris, et c'est le foot qui nous gagnera. À demain.
Demain, le champion d'Europe en titre, l'Espagne, affronte une Turquie revancharde et la Croatie sera face à la République tchèque. Quant aux Italiens, ils retrouvent également la pelouse. Après une entrée fracassante face à la Belgique, la Squadra Azzurra revient sur le terrain pour son deuxième match du groupe, cette fois face à la Suède, qui, elle, a été tenue en échec par l'Irlande au Stade de France. Les enjeux de cette rencontre avec notre correspondant à Paris, Christian Mpanzu.
Pleine de confiance, l'Italie a toutes les cartes en main pour assurer sa place en huitième de finale dès son deuxième match. Serein mais extrêmement appliqué à la tâche, les hommes d'Antonio Conte n'ont prévu aucun changement de plan. Le 4-4-2 solide aperçu contre la Belgique devrait être identique face à la Suède. Légèrement touché au pied contre les Belges, l'attaquant Graziano Pelé sera normalement présent. Côté suédois, l'enjeu est peut-être un peu plus crispant. En cas de défaite, les Nordiques réduiraient considérablement leurs chances de qualification. Et puis, ce Suède-Italie, c'est aussi l'occasion pour Zlatan Ibrahimovic de retrouver ses camarades italiens. Le capitaine suédois a évolué en Serie A durant 7 saisons et se fera un malin plaisir de freiner la progression de la squadra Azzurra. Ce sera au Stadium de Toulouse, une enceinte qu'il a régulièrement fréquentée ces dernières années, sous le maillot du PSG. À Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
Voilà pour ce journal de l'Euro. En bref, la Copa América et le premier quart de finale à suivre cette nuit entre l'Équateur et les États-Unis. Et puis toujours en Amérique, la grande finale NBA, c'est du basket. Le sixième match ce soir entre Golden State qui mène 3-2 face à Cleveland.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
La Banque centrale du Nigeria a ouvert la voie hier à la dévaluation du Naira, la monnaie nationale, afin de rassurer les investisseurs étrangers, alors que le pays traverse des turbulences économiques. La chute des cours mondiaux du pétrole, qui compte pour environ 70% des revenus de l'État et 90% des réserves des devises étrangères du pays, a plongé la première économie d'Afrique dans une crise économique et financière sans précédent. Depuis mars 2015, le taux de change officiel était de 197 à 199 naira pour 1 dollar. Les groupes italiens sont les premiers investisseurs étrangers dans le secteur des hydrocarbures en Algérie, devant leurs concurrents britanniques. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère algérien de l'énergie. Entre 2010 et 2015, les investissements directs étrangers dans les hydrocarbures en Algérie ont atteint 14 milliards de dollars, soit une moyenne de 2,3 milliards de dollars par an. Les hydrocarbures mis à part, la France est le premier investisseur étranger en Algérie. La Banque ouest-africaine de développement a complété l'émission de son premier emprunt obligatoire sur les marchés internationaux. D'après le magazine Jeune Afrique, l'opération a permis de mobiliser 750 millions de dollars et a suscité une forte demande des investisseurs. Le carnet de commandes a atteint 1,8 milliard de dollars.
Morgane Guiriec et Chérubin Gabi Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Morgane, première escale ce soir.
Le Niger, Ali Soumana et Moussa Dodo, respectivement propriétaires et directeurs de publication du journal Le Courrier, ont été condamnés à 3 mois avec sursis. Ils avaient été placés en garde à vue le 4 juin dernier pour avoir publié des documents compromettant plusieurs personnalités. Idriss Fall a recueilli la réaction de Kine Fatim Diop, chargée de campagne en Afrique de l'Ouest pour Amnesty International.
Alors, on leur reproche d'avoir publié des commentaires tendant à exercer des pressions sur la justice, mais également d'avoir publié des documents issus d'une perquisition. Ils avaient été arrêtés le 4 juin dernier. C'est Ali Soumana, le propriétaire du journal Le Courrier, Moussa Dodo, qui est le directeur de publication. L'imprimeur avait été arrêté mais relaxé vendredi dernier. Le verdict est tombé tout à l'heure, donc ils ont été condamnés à 3 mois avec sursis pour publication de commentaires tendant à exercer des pressions sur la justice. L'autre charge a été abandonnée par bénéfice du
doute. Les textes qu'ils avaient publiés mettaient en cause une première dame et un haut gradé de l'armée, non?
Absolument. Il faut savoir qu'en juin 2015, le ministère de la fonction publique au Niger avait organisé un concours pour recruter des professionnels de la santé. Et ce concours avait été émaillé de fraudes. Et finalement, les résultats avaient été annulés. Et les fonctionnaires avaient été arrêtés, inculpés. Et lors du procès, ces fonctionnaires avaient dit qu'ils avaient agi sous ordre de haute autorité et avaient présenté une liste. Et donc les journalistes du journal Le Courrier avaient pu faire une enquête et disposer de cette liste. Et dans cette liste, il y avait des autres personnalités de l'État nigérien, dont la première dame, le président du Conseil constitutionnel, le chef d'état-major des armées, mais également un parti politique qui avait soutenu le président Issoufou lors des élections présidentielles.
Et donc aujourd'hui, les journalistes sont condamnés et ces personnes sont en toute liberté.
Absolument. Le véritable problème, c'est que le juge n'a pas utilisé la loi sur la presse. Ils ont utilisé lors du jugement le code de procédure pénale et on je considère vraiment que c'est une violation à la liberté d'expression et à la liberté de la presse surtout. On demande vraiment que les autorités nigériennes abandonnent immédiatement les charges qu'ils ont retenues contre ces deux journalistes parce qu'ils exerçaient tout simplement leur profession.
Voilà, c'était Kine Fatim Diop, chargée de campagne en Afrique de l'Ouest pour Amnesty International.
Jacques Aristide avec vous au menu de Washington Forum ce jeudi. L'attentat d'Orlando et toutes les questions qu'il suscite. Omar Mateen a-t-il tué à la fois par haine de l'Occident et par homophobie? Quels étaient ses liens avec les groupes djihadistes? La tuerie est-elle un exemple du terrorisme intérieur? Quel impact sur la campagne présidentielle et le débat sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h10.
C'est aujourd'hui la journée de l'enfant africain. À l'instar de ses voisins, le Bénin a marqué l'événement avec la participation du gouvernement, des ONG, de l'UNICEF. À l'occasion d'une marche blanche, des jeunes filles et leurs aînés ont défilé en silence pour dénoncer le mariage forcé. De Cotonou, la correspondance de Ginette Fleur-Adandé.
26e édition de la journée de l'enfant africain, plusieurs raisons de dire stop au mariage des enfants, pouvait-on lire sur des pancartes. Sur une autre pancarte tenue par une fille de 10 ans, on pouvait lire aussi tolérance zéro face au mariage des enfants. Le phénomène, il faut le dire, a pris une allure inquiétante au Bénin, surtout dans le nord du pays, où les filles à l'apparition de leur premier menstru sont données à des hommes généralement plus âgés et polygames de surcroît. C'est dans ce cadre que le ministre en charge des affaires sociales Adjatou Matisse a adressé un message aux populations béninoises, invitant les acteurs à divers niveaux à prendre des initiatives plus renforcées en faveur des enfants. Elle était d'ailleurs au devant de la marche blanche pour appeler au respect des droits de l'enfant.
Les enfants organisent cette marche pour protester contre leur mariage. C'est cela et je me dois en tant que ministre en charge de la famille d'être à leur côté. Parce que c'est une marche de sensibilisation et de plaidoyer. Surtout pour sensibiliser nous les adultes, gardiens de la tradition, les autorités politico-administratives et religieuses sur le fléau que constitue le mariage des enfants, sur leur épanouissement, leur développement intégral et harmonieux.
Les statistiques au niveau des centres de promotion sociale indiquent que le Bénin a enregistré 723 cas de mariage d'enfants en 2013. 48% de ces filles ont moins de 10 ans, 32% ont un âge compris entre 10 et 14 ans et 20% ont entre 15 et 17 ans. Pour Anne Vincent, représentante résident de l'UNICEF au Bénin, c'est un crime qui s'organise dans le silence des familles avec la complicité de tous les membres.
Les textes sont là, maintenant à nous de les porter de façon à ce que cette impunité vis-à-vis de tout ça, ces conciliations au sein des familles cessent parce qu'il n'est pas correct, il n'est pas légal de marier un enfant avant 18 ans. Cela coupe sa vie d'enfant, cela détruit sa vie d'enfant et cela fait en sorte que sa vie d'adulte sera marqué, perdu à jamais.
Bon, même si le Bénin s'est illustré ces dernières années en matière de promotion des droits des enfants par la mise en place d'un arsenal juridique, il lui faut toutefois fournir davantage d'efforts en faveur du bien-être et de l'épanouissement des enfants. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
En Afrique du Sud, on se rappelle du soulèvement sanglant de Soweto. Il y a 40 ans, les violences inédites ont marqué un tournant décisif dans la lutte contre l'apartheid. Le 16 juin 1976, des milliers d'écoliers et étudiants de Soweto ont envahi les rues du ghetto noir pour protester contre l'introduction d'un enseignement entièrement dispensé en afrikaans, la langue de l'oppresseur blanc. La police a paniqué et tiré sur les écoliers. La répression a fait au moins 500 morts. Le 16 juin est aujourd'hui un jour férié en Afrique du Sud, baptisé Jour de la jeunesse. Comment les Sud-Africains vivent cet événement? Eric Manirakiza a joint à Pretoria le professeur à l'Institut de droit international et comparé à l'UNISA, André Thomas-Hausen.
Il y a la nouvelle identité de l'Afrique du Sud qui célèbre et qui se remet dans la pensée de la résistance populaire. C'est d'une espèce de printemps africain, bien avant le printemps de l'Afrique du Nord. C'était la population qui s'est levée, les forces de sécurité du régime de l'apartheid. Ils ont réagi avec un excès faits énormes de violence qui n'étaient pas du tout nécessaires parce qu'il s'agissait des démonstrations complètement pacifiques.
Vous parlez d'une nouvelle identité. Est-ce qu'on peut dire que les plaies se sont cicatrisées?
Pas tout à fait. C'est bien clair. Il y a des cicatrices. Il y a des sentiments de peine sur ce qui s'est passé. Pendant des siècles, en effet, ce peuple avait été traité comme des humains de seconde catégorie qui n'avaient pas les mêmes droits et qui ne pouvaient pas exiger les mêmes droits. Et la paix en Afrique du Sud entre les groupes ethniques est fragile et elle peut très facilement être menacée par des difficultés économiques, par une baisse encore plus évidente dans l'économie du pays, sur leur misère, sur le manque d'opportunités de travail, le manque d'habitation, le manque d'eau potable, le manque d'accès à l'énergie, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. Et tout ça, ça devient encore un peu plus pénible et difficile pour l'Afrique du Sud.
Est-ce que le leadership du pays est conscient de toutes ces menaces pour éviter de faire ressusciter les anciens démons?
Absolument. La campagne électorale, elle sera difficile et elle nous montrera que le ANC est en train de commencer une nouvelle époque néo-libération, et pour que seulement les fêtes de la grande victoire de la libération ne pourront pas donner toujours les réponses aux problèmes concrets des gens.
Comment l'homme blanc de descendance occidentale est-il perçu par la population noire?
C'est très intéressant parce qu'il y a sans aucun doute un succès du parti d'opposition qui est géré par un Africain, mais qui est surtout un parti des professionnels, des cadres blancs. Et cet appui se base un peu sur la perception que pour avoir une meilleure gestion, surtout au niveau des municipes, il faudrait mieux réintégrer les professionnels blancs, les ingénieurs blancs, les administrateurs blancs qui ont évidemment beaucoup plus d'expérience.
André Thomas Haussen à Pretoria.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Sénégal, le président Macky Sall a de nouveau évoqué cette semaine l'éventualité d'une libération prochaine de Karim Wad. Le fils de l'ancien président est en détention depuis plus de 3 ans. Il a été condamné en mars 2000. Il a été condamné à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Les journaux sénégalais en font les choux gras et l'affaire est sur toutes les lèvres. Pourquoi tout ce mélodrame autour de Karim Wad? Idriss Fall a recueilli l'avis d'un confrère, Ismaïla Camara, journaliste à Dakar.
Ce mélodrame, on peut le comprendre dans la mesure où Karim Wad, ministre de la Terre du Ciel, faisait la pluie et le beau temps au Sénégal. C'est le fils de l'ex-président de la République, Maître Abdoulaye Wad. Il a été puissant ministre au moment où son père dirigeait le Sénégal. Il peut susciter ses réactions. On peut dire que le président Macky Sall va finalement libérer Karim, comme l'affirment certains journaux à leur une aujourd'hui. Cette question a été même au centre de sa rencontre avec le calife des Mourides, selon certaines indiscrétions, Karim Wad pourrait même passer la qualité chez lui.
Mais c'est un véritable camouflet pour la justice sénégalaise qu'il avait condamné à 2 ans de prison, non?
Idriss Fall, il faut le dire, la politique a toujours eu le dessus sur la justice au Sénégal. Surtout entre le judiciaire et l'exécutif, il y a énormément de problèmes. On voit que le président a son dernier mot sur certains sujets. La justice peut juger une personne, la condamner, mais par l'effet d'une grâce, cette personne-là peut recouvrer la liberté. C'est le politique qui prend le dessus, c'est l'exécutif qui prend le dessus sur le pouvoir judiciaire au Sénégal.
Mais on se rappelle qu'Abdoulaye Wade avait jeté en prison un certain Idriss Seck. On pourrait aussi comprendre qu'un certain Macky Sall a jeté en prison un autre Karim Wade pour des raisons politiques.
D'abord, je pense que avant que ça soit une raison politique, on avait parlé de traque des biens mal acquis. Macky Sall est arrivé à la tête du Sénégal. Il avait pour ambition d'assainir les finances.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Michel Joseph. À la console, Nachouane Calais. Présentation, Morgane Guiriec et Chérubin Gaby Torsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. On essaiera d'y répondre dans nos programmes interactifs. Et n'oubliez surtout pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.